silence.
Toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com, et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Damien. Eh oui, c'est l'heure du cinéma. Bonjour chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous ce matin. Voilà, c'est gentil comme tout. Et puis c'est bien de vous intéresser au cinéma, parce que moi je vais vous dire, sans le cinéma, moi, eh ben, je ne serais pas bien. Ouh là 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 là, moi ça me maintient physiquement, moralement et tout. J'en ai vraiment besoin, moi, depuis que je suis toute petite. Alors tous ceux qui sont fous de cinéma vont comprennent ce que je suis en train de dire, je pense. En tout cas, bon, bah alors on a appris, bon, bah là, c'est pas très triste parce que, bon, Olivia de Havilland, grande actrice, vraiment, bon, on la connaît bien, enfin, on va voir après pourquoi on la connaît bien. Il y a un film qui l'a fait connaître en France, un grand film. Donc, Olivia de Havilland, bah, elle était née en 1900. En 1916, je crois, voilà. Et puis là, elle est décédée... Oui, elle était née le 1er juillet 1916 à Tokyo. D'ailleurs, après, elle a été naturalisée américaine et française. Elle avait donc les deux nationalités. Et elle est décédée le 26, c'est-à-dire... c'était quand
C'était dimanche.
Dimanche, c'était ma fête, figure-toi. Oh, la Sainte-Anne. Eh ben oui, la Sainte-Anne. Eh ben oui, bah oui. Donc, elle est morte le jour de ma fête. Ça, c'est pas sympa. Le 26 juillet 2020. Et elle avait quel âge, Damien ?
104 ans.
Yes ! Elle avait 104 ans. Et oui, c'est pour ça que je disais au début, bon, elle a une très, très belle vie. Et c'est pas triste, je veux dire. C'est pas comme quand quelqu'un s'en va à 60, 70 ans, où on trouve que c'est beaucoup plus triste quand même. Mais là, 104 ans, bon, très bien. Eh bien, écoute, elle a été mariée. Ah, elle a eu un premier mariage qui n'a pas duré très longtemps. Et le second mariage, qui a duré un peu plus longtemps, de 1955 à 1979, elle était mariée à un journaliste de Paris Match, qui était écrivain également, Pierre Galante. Elle avait eu un fils de son premier mariage, mais du coup j'en bafouille. Et elle a eu une fille avec Pierre Galante, et Gisèle Galante, qui est journaliste d'ailleurs. Et son fils Benjamin, lui, il était mathématicien et il est mort à 42 ans, en 1991, oui. Allez savoir ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là. En tout cas, je crois que c'était un chagrin pour elle. Hein. Je crois qu'à ce moment-là, elle a eu un chagrin quand même. C'était pas évident. Donc pendant longtemps, eh ben, elle a vécu... à côté de chez Valérie Giscard d'Estaing, oui, ben oui, dans le 16e, rue de Bénouville, pendant pas mal d'années. Là. Puis après, ces dernières années, elle vivait dans une suite du Palace Saint-James. Alors le Palace Saint-James, il se trouve dans le 16e également. Donc voilà, elle a vécu là. On nous dit qu'elle a fêté, elle avait fêté son anniversaire là, le 1er juillet. C'est 104 ans. Pourquoi le 1er juillet ? Bah parce que c'était son jour d'anniversaire, puisqu'elle est née le 1er juillet 1916. Donc, elle l'avait fêté. Et on dit d'elle qu'elle était magnifique, actuellement, hein, telle qu'elle était, passé son 100 ans, qu'elle était magnifique, qu'elle avait toute sa tête et qu'elle marchait très bien. Alors, c'est titré d'ailleurs dans les journaux « Une beauté délicate et une célébrité sophistiquée de l'âge d'or d'Hollywood ». Donc, avec elle, et puis on pense à Kirk Douglas aussi, qui faisait partie de l'âge d'or d'Hollywood aussi, qui est décédé en février 2020 à 104 ans. Donc, avec lui, ben voilà, c'est peut-être la dernière star de l'âge d'or d'Hollywood qui disparaît, effectivement. Mais nous, on a eu quelqu'un aussi, c'est pas Hollywood, mais c'est l'âge d'or du cinéma français, c'était Danielle Darrieux, quand même, qui est morte à 100 ans également en 2017. On en avait parlé ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers quand elle est partie. Donc, elle aussi, elle faisait partie de l'âge d'or du cinéma, hors Hollywood sans doute, mais quand même. C'était quand même une comédienne importante également. Elle avait, puisqu'elle n'est plus là, donc on peut parler à l'imparfait, elle avait une sœur actrice aussi très connue, Joan Fontaine, qui elle est décédée en 2013 et qui s'est fait connaître en France, je pense, beaucoup dans les deux films de Hitchcock, pour lesquels d'ailleurs elle avait été primée, Rebecca et Soupçon. Avec Cary Grant, Joan Fontaine, on la connaît. Pour les gens qui sont vraiment très cinéma, ils connaissent certainement Rebecca et Soupçon. Et donc, Joan Fontaine, la sœur d'Olivia de Havilland, était connue pour ces deux films, enfin, en tout cas en France. Et puis, ah oui, alors ça c'est curieux parce que moi je l'ignorais. Figure-toi, Damien, figurez-vous mes chéris, que c'est René Simoneau. Alors, ça vous dit rien, ce nom-là, Renée Simoneau? Parce que c'est une comédienne de théâtre et elle a fait beaucoup de doublages. C'était elle qui doublait au cinéma, donc, Olivia de Havilland, mais c'est surtout, et ça, moi, je le savais, mais j'étais pas certaine du tout. J'ignorais qu'elle avait été la doublure d'Olivia de Havilland, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est, c'est la mère de Catherine Deneuve. Et la mère de Catherine Deneuve a 109 ans. Aujourd'hui, elle est toujours vivante. Elle est née en 1911, vous faites le compte. Et donc, elle est, c'est la doyenne des actrices actuellement, en France, des comédiennes. Voilà. C'est elle, puisque Suzy Delair est partie déjà. Elle aussi, elle était très âgée. Ah oui, c'est elle, la doyenne. Alors, Olivia de Havilland, au cinéma, elle a quand même tourné dans 49 films, pas 49 000. La chaleur ne me va pas du tout, Damien. Il va falloir que j'aille au pôle Nord me poser pendant quelques temps. Ça va pas du tout. Et donc, elle a 49 films, oui, j'y arriverai pas, de 1935 à 2009. Chut, 49 films. Alors, évidemment, elle est très connue en France, je le disais dès le début, là, pour un film que tout le monde a vu au moins une fois, parce que même si on ne l'a pas vu au cinéma, parce que vu l'époque à laquelle il est sorti, on ne peut pas l'avoir vu au cinéma. Il est sorti en 1939. C'est un film qui est repassé très, très souvent sur pas mal de chaînes. Et je parle de Autant. Tu peux finir la phrase ?
On emporte le vent.
Yes, et oui, voilà. Qui a eu un succès. On la connaît dans ce film parce que ça a eu un succès extraordinaire. Elle jouait Amélie, la douce et fragile cousine de Vivien Leigh, qui était elle l'héroïne et qui était quand même pas très rigolote. Et il y avait Clark Gable aussi, évidemment, le beau Clark Gable à l'époque. Voilà. Donc on la connaît. Et c'est curieux parce que justement. Certains journalistes nous disent, elle était, comme on a cette idée de cette femme douce et fragile, etc., on pense qu'elle était comme ça dans la vie, pas du tout. Elle était l'inverse, une femme de caractère, absolument. Elle a même fait voter une loi pour les acteurs. Enfin, moi, c'était quelqu'un, c'était pas du tout ni la douce ni la fragile cousine, d'autant on emporte le vent. Voilà, au moins. Et puis à la télévision, elle a 11 prestations de 1965 à 1988. C'est pas si mal. Et puis alors les récompenses, elle a eu, en 1947, elle a eu un Oscar pour son rôle dans le film « À chacun son destin » de Mitchell Eisen, qui était un réalisateur américain. Ça se passe à l'époque de Londres bombardée, hein, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre. Donc cet Oscar, à la Mostra de Venise en 1949, elle a eu la Coupe Volpi, meilleure actrice bien sûr, pour un film sorti en 1948, La fosse aux serpents. Et c'est un film. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, La Fosse aux Serpents. Bon, il existe en DVD, évidemment. Mais si vous êtes, si la folie vous fait peur, si vous êtes un peu, voilà, moi, je vous déconseille. C'est un film magnifique, mais je le déconseille aux gens qui sont effrayés par la folie et tout ce qui tourne autour de la folie. C'est-à-dire la folie irrécupérable, hein, des gens qu'on ne peut plus récupérer. C'est La Fosse aux Serpents. Ça se termine comme ça. Enfin, c'est. C'est un film assez terrible. C'était le réalisateur, c'était un grand réalisateur qu'on connaît, russe, Anatole Litvak, à qui on doit La Nuit des Généraux en 1967, Aimez-vous Brahms en 1961, enfin un tas de films chefs-d'œuvre. Il a beaucoup fait tourner Ingrid Bergman, Yves Montand, Anthony Perkins, etc. Donc La Fosse Serpent, c'est sûr, mais c'est très, 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 très dur. Elle a eu le Golden Globe aussi en 1950 pour de meilleure actrice pour son rôle dans L'Héritière. Alors dans L'Héritière, elle a eu l'Oscar, le Golden Globe et l'Oscar 1950 pour L'Héritière pour son rôle qui est sorti. Le film est sorti en 1949. Il faut dire que dans L'Héritière, c'est pareil, moi je l'ai vu 2-3 fois. Elle a un rôle terrible. Elle est mauvaise, démoniaque. Elle a un rôle terrible, c'est-à-dire Alain. Complètement à l'inverse du rôle qu'elle a dans Autant n'emporte le vent, justement. Ça n'a rien à voir, c'est un autre personnage. Ce qui démontre en fait qu'elle avait une palette de jeux assez extraordinaire. Bon, elle n'a pas tourné 49 films parce qu'elle est comme ça. Hein. C'était une très grande actrice. Hein, voilà. Donc, ça, palette étendue. Dans L'Héritière, il y a Montgomery Clift aussi, qui lui, par contre, est décédé à 45 ans. En 1966, qui était un prestigieux acteur. Mais il est dans L'Héritière. Voilà, ben c'était, je voulais lui rendre hommage quand même, puisqu'elle a vécu à Paris pendant 50 ans.
Eh oui.
Elle est morte à Paris. Elle vivait à Paris donc depuis 50 ans, mais la première fois qu'elle est venue à Paris, c'était par amour, c'est ce qu'on nous dit, par amour pour son second mari, Pierre Galante, dont je parlais tout à l'heure, le journaliste de Paris Match, voilà. Il lui a dit, bah, écoute, moi je retourne en France, je t'aime, est-ce que tu veux venir? Et elle est venue à Paris, et du coup, elle est restée. Ils se sont séparés en 1979. Ils s'étaient mariés en 55, ils se sont séparés en 79, mais ils sont restés amis, mais en même temps, elle est restée, voilà. Elle est restée à Paris, elle est tombée probablement amoureuse de Paris. Il faut dire qu'elle vivait dans un quartier prestigieux et dans une maison prestigieuse. Puis ensuite, la suite dans le palace, ça ne devait pas être mal non plus. Donc, elle avait une très, très belle vie. Bah, tant mieux, hein, on n'est pas, voilà, c'est très bien comme ça. En tout cas, voilà, hommage à cette grande dame du cinéma.
Et maintenant, nous allons parler des films qui sortent aujourd'hui dans les salles. Et,
oui.
Et nous allons commencer par quoi ?
C'est-à-dire que je voulais en parler parce que je ne sais pas, toi, tu sauras peut-être à un moment donné avec le Cinéma Rex, notre partenaire, parce que ce sont des films d'animation qui vont probablement sortir dans les cinémas de proximité, mais on n'a pas de date du tout. Et il parle pas de. Et c'était prévu pour tout l'été, pour tout l'été 2020. Bon, là, je comprends pas qu'il n'en sorte pas un ou deux puisque les cinémas ont rouvert. Ça s'appelle Little Film Festival. Donc c'est un distributeur en fait qui a soutenu d'ailleurs la réouverture des cinémas, le distributeur de ce festival. Et j'avoue que là, je suis un peu surprise. Je les ai quand même mis de côté parce que tu en entendras peut-être parler, toi, quand tu parles du programme de l'Aréole du Rex le matin. Il y a quand même 5 courts-métrages très, très beaux. C'est très beau en plus. Hein, Ma petite planète verte, on a... Non, il y en a plus que ça. Hein. Oh non, il y en a 8 exactement. Il y en a 8. Il y a Prendre soin de la nature, Ma petite planète verte, La petite taupe aime la nature. On a Rêvé la tête en l'air, La petite fabrique des nuages, Balade sous les étoiles, Observer les animaux, les animaux mal aimés, Bonjour le monde et Partir à l'aventure, Le rêve de Sam, Youpi, c'est mercredi. Alors moi, je vais le laisser au studio, hein, je vais laisser tout ce que j'ai pu noter sur ces films et puis peut-être que toi, Damien. À un moment donné, peut-être que tu verras qu'il y a un de ces films. Ce serait dommage quand même que les enfants ne puissent pas en profiter. C'est très beau, c'est très bien fait. Ça parle d'un tas de choses. C'est vraiment, c'est bio en fait, hein, puisque ça parle. C'est ça. Ça parle de choses extrêmement importantes. Et voilà. J'espère. En fait, il nous conseillait d'appeler les cinémas de proximité pour savoir s'ils allaient justement les passer. Alors, je laisse le dossier au studio. Voilà, il y a tout un dossier là sur ces jolis, jolis, magnifiques films. Bon, ben voilà, je voulais quand même hein, en parler. Ensuite, bon, ben là, on va. Il y a, je parle des films qui sortent là, hein, qui vont être en salle. Donc, on a Blanche-Neige, Les Souliers Rouges et Les Sept Nains. Ça, c'est un titre très long, ça. Mais bon, c'est une animation, c'est pour la famille, bien sûr. C'est sud-coréen. Et c'est réalisé par un sud-coréen réalisateur qui est très connu et très apprécié. Réalisateur scénariste Hong Sang-ho. Ça, c'est son nom. C'est très joli, c'est joli, joli comme tout. Alors, en voix off, on a la voix de Mella Bedia. On la connaît, Mella Bedia, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Elle était, je ne sais plus le titre, elle était dans un film où elle faisait de la gymnastique pour
S'appelait Forte.
maigrir. Voilà, c'est ça, Forte. Donc, c'est elle, la voix off. Et puis, on a Clément Moreau et Thibaut Belfodil, qui sont des habitués du doublage. Dans ce film, ça dure 1h32. Alors, c'est quoi? C'est à partir de 6 ans. Oh, ma petite copine Naya, j'espère qu'elle va y aller. Mais oui, mais oui. C'est donc c'est l'histoire de princes transformés en nains qui viennent à l'aide d'une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s'amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c'est l'amour qui sauvera tous les personnages. Très joli. Blanche-Neige, Les Souliers Rouges et Les Sept Nains. Je suis persuadée que Damien a une bande annonce pour nous.
Et on l'écoute maintenant.
Merci.
Je n'arrive pas à croire que ma fille chérie Blanche-Neige vient d'avoir 18 ans. Quand tu liras ces lignes, mon sort sera plus qu'incertain. Tout ce que j'espère, c'est que tu trouveras les sept intrépides pour leur demander de l'aide. Elle vient me régler mon compte.
Une aventure féerique par les créateurs de la Reine des Neiges, Vaiana, la légende du bout du monde, et Réponse.
Faites des avis de recherche, postez-les dans tous les villages et trouvez-la.
Quoi?
Excuse-moi, mais comment tu t'appelles?
Je m'appelle Rouge, Souliers Rouges.
Ça, c'est l'île des contes de fées. Des accidents dus à des événements étranges arrivent tout le temps.
Blanche-Neige, Les Souliers Rouges et Les Sept Nains.
Et on sent l'action et l'aventure
Ah,
dans la musique de cette bande-annonce.
Tout à fait, c'est pour ça que c'était bien que tu la passes, parce que effectivement, ça donne une idée de l'atmosphère, quand même. Enfin, pour ce film, d'ailleurs, il est également producteur exécutif, hein, Hong Sang-ho.
Blanche-Neige, Les Souliers Rouges et Les Sept Nains.
Oui.
Ensuite, nous continuons.
Alors ensuite, ben, j'ai encore une animation. Et oui, à partir de 6 ans, toujours. Oh là là, Naya va plus savoir où donner de la tête, ma copine. Et c'est un. Ah ben, c'est. Voilà, c'est pour la famille aussi. Et c'est danois. Et c'est un danois qui l'a réalisé. Ils sont deux, pardon. Co-réalisation de deux danois. Kim Hagen Jensen, qui est un acteur, auteur, animateur, réalisateur. Et Tony Zenk, qui est directeur de l'animation, lui. Voilà. Donc, ils se sont bien trouvés tous les deux, mais je crois qu'ils se sont des habitués. Ils travaillent souvent ensemble. Et c'est vraiment très, très joli aussi, hein. C'est tout mimi, hein, comme. C'est quoi? Ben, c'est quoi au fait? Alors, c'est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco. Elle s'appelle Emer, pardon. J'ai oublié son prénom quand même. Emer est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco. Mais c'est qui Coco? Ben, c'est son cochon d'Inde. Bien sûr. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu'elle a le pouvoir d'entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire, jusqu'au jour où revenir dans le monde réel s'avère plus compliqué que prévu. C'est vraiment magnifique. On rêve tous de ça quand même, hein, finalement. Bon, ben non, oui, mais c'est une animation. Elle existe sans exister, cette jeune fille, on peut dire ça. Alors, on a les voix de Lola Dubini, Steve Drizon, Audrey Dulster, ce sont des habitués du doublage aussi de films d'animation. Ça dure 1h21. Dreams, c'est très beau, vraiment, c'est mimi comme tout. Et puis, ah, alors là, on arrive, on change un peu de genre, on arrive dans une comédie française. Et la comédie française qui s'appelle... Enfin, le titre, c'est Ta, T'apostrophe-S, Ta pécho. Eh ben oui, Ta pécho. Alors, ça veut dire quoi, Ta pécho? Oh, toi, tu sais, Damien, je suis sûre.
T'as chopé en verlan, ce qui veut dire, est-ce que tu as rencontré une personne qui te plaît et que tu as pu embrasser et sortir avec?
Ben voilà, c'était un piège. Je savais que tu allais tomber dans le piège. Ah, tu es au courant de tout ça, toi. Tu es un coquin, Damien. Je t'ai piégé. Non, mais je savais aussi, en fait. J'exagère. Donc, Ta pécho, ben c'est un film d'Adeline Picot, réalisatrice scénariste française. Mais c'est quoi alors? C'est l'histoire d'Arthur. On a d'abord Arthur, 15 ans. Il a un coup de foudre pour Wassima. Tu avais raison. Hein, il va espérer la pécho parce qu'il a un coup de foudre pour elle. Voilà. Donc, mais Wassima ne le regarde même pas. Alors comment ils disent les jeunes? Ils disent pas ne me regarde pas, ils disent ne me calcule pas, c'est ça? Ils ne la calculent pas, ils parlent comme ça les jeunes. Oui, oui. Voilà, elle ne le calcule pas, c'est-à-dire qu'elle ne le regarde même pas. Alors que lui n'a jamais pécho, bah oui, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s'approcher d'elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage à 10 euros la leçon. Bon, dans les vestiaires de la piscine. Débute alors un long apprentissage intime et collectif sur les filles et l'amour, mode d'emploi. Eh bien, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Le mode d'emploi pour les filles, aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait un. Alors, on a Arthur, c'est Paul Kircher. On a Inès d'Assomption. Ah oui, elle est incroyable elle, dans le rôle de Wassima. On a Ramzi Bedia, bah justement, on parlait de sa sœur tout à l'heure. Hein, qui fait une voix off de Dreams.
Melia Bedia.
Voilà, donc lui, il est là dans Ta pécho. On a Vincent Macaigne aussi, dans les rôles principaux. Alors évidemment, Ta pécho, la réalisatrice, elle a eu l'idée de ce film à cause d'une obsession qu'elle a depuis l'adolescence. Ah, voilà ce qu'elle confie. Je suis humainement fascinée par ceux qui prétendent, sur un sujet aussi mouvant et poétique que l'amour, qu'il n'y a qu'une seule et bonne manière de faire. Comment peut-on être aussi affirmatif alors que l'amour échappe à toute loi? Pour aborder ce thème sensible, elle nous dit « J'ai essayé de trouver une porte d'entrée. J'ai imaginé Arthur, un personnage candide, désireux d'apprendre comment pécho une fille, comment séduire et aimer. Il s'adresse à Wassima, une fille pour qui il a eu un coup de foudre, mais qu'il l'ignore. Parce qu'elle lui semble pleine d'assurance, Arthur est persuadé que Wassima sait comment séduire. Il la convainc de dispenser à lui et trois de ses copains des cours de pécho. Dès lors, Arthur se trouve confronté à un mode d'emploi comme on en établit pour une machine à laver. Et oui. Alors, elle a l'écriture des dialogues, pour elle, ça a été la partie intuitive de son travail. Elle ne fréquente pas d'ados, mais elle éprouve une affinité particulière pour cette tranche d'âge. Elle a imaginé des répliques poétiques ou drôles, comme lorsqu'elle fait dire à un personnage, par exemple, « Oh, ça sent le cramé tellement ils sont chauds. » Sur le plateau, certains ados validaient une expression. « Ah oui, c'est exactement ça. » Quand d'autres restaient perplexes. « Ah ben ça, je comprends pas. » Il y avait ceux qui comprenaient cette phrase quand même. Assez, ça sent le cramer tellement ils sont chauds. Et puis ceux qui se demandaient ce que ça voulait dire. C'est un peu rassurant qu'il y en ait qui ne sachent pas quand, finalement. Ils ont encore leur... comment on peut dire ça? Ils ont encore leur pureté d'âme. Alors Paul Kircher, lui, qui joue le rôle d'Arthur, a séduit la réalisatrice parce qu'il a une singularité qui lui a beaucoup plu. Selon elle, l'acteur est émouvant, presque cartoonesque. Ah oui, quand même, et doté d'une poésie qui lui échappe. Elle nous dit « Ce n'est pas courant de croiser un garçon de cet âge aussi lunaire, avec un monde intérieur si riche. L'enjeu était de réussir à ancrer Paul dans le sol et faire en sorte qu'il s'intègre dans une bande. Je l'ai beaucoup cadré il a fallu le cadrer parce que, comme il est très lunaire, ben, ce n'était pas évident de l'ancrer comme ça. Et oui, ça, on comprend. » Et puis Inès d'Assomption, qui joue Wassima, a ébahi absolument la réalisatrice par sa ciné-génie, ouais, son instinct dans le jeu et sa vulnérabilité. Alors en fait, elle nous dit qu'elle a travaillé en casting puis musclé sur le plateau l'autorité qu'elle n'avait pas de manière innée. Voilà, c'est quand même... Elle souhaite, en fait, Adeline Picot, la réalisatrice, souhaite que les adolescents jouent sans limite ni blocage. Elle voulait, donc voilà, parce que la difficulté pour certains d'eux, c'était d'incarner des personnages qui, entre le début et la fin du film, ont pris de l'assurance, alors qu'ils ne tournaient pas les scènes dans l'ordre. Ah oui, ça, c'est... Effectivement, c'est pas évident. Alors, ça demande une grande discipline, ça. Effectivement, ouais, elle a raison, la réalisatrice. Alors Paul Kircher, lui, Arthur, vient d'une famille d'acteurs, mais il n'avait pas de réelle expérience. Alors il y a eu un temps de préparation quand même assez court, donc ils ont principalement répété les cours de pécho. on va s'inscrire, hein. Damien, on s'inscrit ? D'accord, on s'inscrit. Alors, sur le plateau, voilà, donc Adeline Picot a fait un film drôle quand même, et espérons que... Bon, bah, allez-y, mes chéris, pour vous détendre de toute façon, si vous avez des ados. Bon, si vous êtes vous-même ado, bon, ok, que vous écoutez Radio Entre-deux-Mers et que vous écoutez un peu l'émission sur le cinéma, ah, moi, je vous conseille d'y aller. Hein. Comme ça, vous allez voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis, vous, parents, si vous avez des adolescents, allez donc voir le film pour voir comment ça se passe et peut-être pour les mieux comprendre, finalement, à la fin. Eh oui! C'est toujours intéressant le cinéma pour ça. Parce qu'on peut avoir chez soi des petits problèmes qui, tout d'un coup, dans un film, révèlent quelque chose, nous aident. C'est fait aussi pour ça. Alors, pour parler de la scène du baiser, il y a une scène du baiser, oui. Elle n'a pas été un grand moment de confort pour les ados, c'est ce qu'elle nous dit, la réalisatrice. Mais ils ont été très pros et solidaires. La deuxième scène a été tournée dans une ambiance de cocon, avec une équipe réduite. Oui. J'ai expliqué à Paul Kircher et Inès d'Assomption qu'elle ne serait ni crue ni indécente, que je n'aurais aucun problème à voir de la maladresse dans leur jeu, tant qu'ils y mettaient un peu d'engagement amoureux et de douceur. Là, on parle de la scène de baiser. Hein. Baiser. On a soigné la lumière, ajoute-t-elle, pour que ce soit gracieux. Puis il y a la musique aussi de Valentin Hadjadj qui a permis d'injecter du lyrisme dans cette séquence, la séquence du baiser qu'on imaginait comme une bulle. Pour le reste, ce sont surtout les scènes de groupe avec des déplacements, de nombreux plans et beaucoup d'interactions qui ont été compliquées à mettre en place. Oh, mais moi, il me tarde d'écouter la musique et je suis sûre que Damien a quelque chose pour nous.
Et puis j'ai la bande-annonce que l'on écoute.
Yes.
Il y aurait moyen que Guy et moi, on vienne à ta fête de décembre.
T'as pas pécho, t'es pas invité, basta.
Pour être invité, faut pécho, faut passer de naze à cool. Vu que moi et mes potes, on est un peu galère, je voudrais savoir si tu serais partante pour m'apprendre à moi et quelques potes comment pécho des meufs.
Ouais, t'inquiète, on va te sauver, Winnie. Ça sera 10 euros. La leçon est par personne. Vous allez me dire chacun à votre tour ce que vous avez d'original en vous.
Je suis un meneur, voilà, je suis le chef de tout.
Non, mais c'est chou comment tu t'humilies, là, en fait.
Pour me démarquer, j'ai mon amour de la danse.
Ça va être compliqué, là.
Ils partent de super loin, t'es moche.
La première chose que voit une meuf, c'est votre gueule. C'est comme pour les apparts, elle met 3 secondes à vous choisir.
Comment attirer l'attention des meufs?
Avec le regard.
Tu peux pas y échapper, t'es trop belle. On voit que toi même quand t'es pas là.
Bah ouais, t'as trouvé comment te démarquer.
Vous allez me prendre un devoir.
L'amour, c'est...
Vous me dites en vous filmant ce que c'est l'amour pour vous.
C'est la merde. Grandir, est-ce que ça vaut le coup?
Bah évidemment que ça vaut le coup.
Mais fais-moi confiance un tout petit peu.
C'est juste que je veux le meilleur pour toi.
Nous, on les voit encore comme des petits bébés, mais ils ont grandi.
Mais j'ai pas envie de valider une relation amoureuse dite sérieuse à 15 ans.
L'amour, c'est être avec toi pour faire tout et rien. Et c'est aussi être sans toi. Et y penser tout le temps.
Elle vous enseigne comment pécho, c'est ça?
T'es allé voir une fille de joie?
Non, elle tire tout le temps la gueule.
Voilà donc, t'as pécho la bande-annonce et ça sort aujourd'hui.
Dis donc, si un jour t'as des ados, Damien, dans ta vie, bah, il faudrait que t'achètes le DVD. Tu le repasseras à ce moment-là.
Ouais, ou ça aura peut-être évolué d'ici.
Ah, le pécho, oui. Oh, bah, c'est un petit pécho, quoi. C'est sympathique, petit pécho. Alors, ah oui, alors ensuite, bah, j'ai mis de côté. Alors, il y a les deux, c'est drame, c'est comédie, c'est américain. Ça s'appelle The Climb. Le climb, ça veut dire la montée, en fait, si on le traduit. Donc, on va garder The Climb, parce que, bon, ça ne veut pas très joli, la montée. C'est un film de Michael Angelo Covino, qui est un acteur-réalisateur-producteur américain. Il a 47 ans. Son film a 2 prix et 11 nominations. Et c'est quoi? Ben, c'est l'histoire de Kyle et Mike, qui sont 2 meilleurs amis, au tempérament très différent, mais dont l'amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu'au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle. Point de suspension, on continue. Alors que l'amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau. Là, on va mettre un point d'exclamation. Et oui, drôle d'histoire quand même, hein. Alors, on a Michael Angelo Covino, le réalisateur qui a le rôle de Mike. On a Kyle Marvin qui a le rôle de Kyle. On a Gail Rankin, Talia Balsam dans les rôles principaux. Alors, c'est titré une bromance, ouais, aux airs de Woody Allen. Une modernité, une drôlerie qui emporte tout. Une comédie incandescente et virtuose, je ne sais pas, mais virtuose, c'est sûr. Donc, c'est quand même... Alors, les deux prix, c'est quand même des jolis prix, hein. Il y a le prix du jury au Festival du cinéma américain de Deauville 2019, plus 5 nominations. Et il y a un prix à Cannes 2019, Un certain regard, coup de cœur du jury, plus 6 nominations. Ouh, c'est joli, ça, quand même. Il devait être assez content, le réalisateur. Donc, en fait, les deux co-réalisateurs, Michael Angelo Covino et Kyle Marvin, se sont rencontrés il y a 10 ans à New York. Ils tournaient des spots publicitaires. Voilà. Une amitié est née à partir de là, ce qui leur a permis de travailler ensemble. Alors, The Climb, ça a d'abord été un court-métrage du même nom qui a été sélectionné à Sundance, c'est pas n'importe quoi, et qui était né de la volonté de Michael Angelo Covino d'exploiter les qualités de comédien de son comparse, Kyle Marvin. Voilà, au départ, c'était ça. C'était un défi, nous dit-il, qui consistait à savoir si on pouvait réaliser un court-métrage captivant et drôle en ne filmant que nous deux en train de parler. Nous sommes allés dans beaucoup de festivals et les courts-métrages qui me plaisent le plus sont ceux qui reposent sur une idée et qui sont très bien mis en scène, concis, simples, et qui ne dépasse jamais 10 minutes. Ah, on s'en souviendra de ça. Donc, un court-métrage, il faut qu'il soit concis, simple, et qui ne dépasse pas 10 minutes pour être un bon court-métrage. Ça, c'est l'opinion de Michael Angelo Covino. On va la mettre de côté quand même, quand on regarde des courts-métrages. Oh, ils sont rarement plus de 10 minutes, d'ailleurs, les courts-métrages, hein, je ne sais pas.
Oh. Il y en a qui font jusqu'à 25 minutes.
Hein. Oui, bah, tu vois, bah, pour lui, ce n'est pas bon. Ça doit être simple et concis. 25 minutes, c'est pas concis. Alors, c'est quoi, là? Ben, la naissance du pitch, c'est quoi? Ben, Angelo Covino, là, Michael, pratique le cyclisme depuis plusieurs années. Une activité qui lui a fourni de la matière pour The Climb. Quand on fait du vélo, on a le temps de réfléchir, dit-il. Je me suis aussi retrouvée confrontée à un de mes proches, enfin, un de mes très proche amie qui avait couché avec mon ex-petite copine. Et j'ai repensé à ça au cours d'une balade à vélo. C'est comme ça qu'est né le film. Et bien, décidément, il n'avait pas de chance, lui. Alors, les personnages de Climb, s'accrochent et idéalisent le passé. Michelangelo Covino voulait qu'il se retrouve au début du film dans un endroit sur lequel il serait amené à fantasmer et qui hanterait leur subconscient tout au long de l'histoire. D'où le choix de la France. Et oui, il a choisi la France. J'ai de la famille en France, nous dit-il, et j'y ai passé pas mal de temps. Et par ailleurs, mon ex-petite amie est française. Ce n'est pas moi, hein, Damien, je te le dis tout de suite. Non, ce n'est pas moi. Donc, j'ai découvert une... Bah si, j'aurais pu, parce que aimant le cinéma, hein, on peut croiser un tas de gens quand même. Bon, d'accord. J'ai découvert une passion, nous dit-il, et une fierté chez beaucoup de Français. Et dans la culture française en général, que je trouve magnifique. Alors là, je le dis parce que quand même, ça fait plaisir de lire ces quelques lignes, il me semble. Par ailleurs, dit-il, je tenais vraiment à avoir un prétexte pour faire du vélo dans le sud de la France. Mais qu'ils viennent, on a des pistes cyclables par ici. Mais alors, des très belles pistes cyclables. C'est vrai, ça. Ben, il doit le savoir maintenant quand même, s'il s'intéresse à la bicyclette en France. Voilà, donc en fait, le court-métrage avait déjà été primé un peu partout. Enfin bon, voilà, quoi, c'était le gros succès. Donc du coup, eh ben, pourquoi ne pas faire un long-métrage ? Eh oui. Enfin voilà, il voulait aussi que la mise en scène du film soit théâtrale, voilà, et que le film possède une esthétique stylisée, tout en privilégiant des personnages authentiques. En prépa, nous dit-il, on parlait essentiellement de mise en scène. Il fallait que chaque scène soit justifiée, que chaque mouvement d'appareil, chaque angle de prise de vue soit également justifié. Et puis on en parlait avec le chef, hop, et du coup, le film, bah, grâce à ça, le film est quand même une réussite. C'est un film très chorégraphié, du début à la fin. Et chaque mouvement de caméra est réglé minutieusement. Et ça, ce qui suscite effectivement des émotions palpables. Voilà, ça, c'est pour vous donner envie d'aller voir ce film qui est vraiment très beau, qui vaut la peine. Et ça s'appelle The Climb.
The Climb, donc l'ascension.
Eh oui, oui, j'avais traduit la montée, mais c'est l'ascension. La montée, l'ascension. Et on parle de bicyclette, là, quand on parle de... Mais ce n'est pas le Tour de France, mes enfants. Oh, j'ai dit, il dure 1h34. Très, très beau. Très beau. Et puis, ah oui, j'avais mis aussi de côté... Ah ouais, oui, une comédie française, il y a de l'aventure aussi. Et puis, ça s'appelle Terrible Jungle. Pourquoi ? Terrible jungle. J'exagère parce que jungle, ça fait plus drôle. Terrible jungle, c'est une co-réalisation de Hugo Benamouzig, qui est un réalisateur scénariste français, et David Caviglioli, qui est un réalisateur français. Donc ce film a 4 nominations au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2020. C'est nommé prix, quand même, c'est nommé prix OCS, Globe de la presse, du public Allociné et spécial du jury. Pas mal quand même. Ouais, des belles nominations là. C'est quoi ? C'est l'histoire d'Eliot. Eliot, c'est un jeune chercheur naïf qui part étudier les autopistes. Alors les autopistes, on va le dire tout de suite, c'est un peuple mystérieux d'Amazonie. C'est aussi l'occasion pour lui de s'éloigner de l'emprise de sa mère, la possessive Chantal de Belabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s'aventurant dans l'étrange forêt amazonienne. Alors la maman, ben qui joue le rôle de la maman ? C'est Catherine Deneuve. C'est Chantal. Elle joue le rôle de Chantal. On a Vincent De Dienne. Eh oui, c'est le fiston. On a Alice Belaïdi, Jonathan Cohen dans les rôles principaux. Donc, c'est une comédie, vous avez envie de vous détendre. Bon, ben voilà, Ça dure 1h31. Je me suis toujours demandé pourquoi 1h30, 1h31. Qu'est-ce que c'est que cette minute supplémentaire ? Faudra que je me renseigne là-dessus. Mais en tout cas, c'était 1h31. Et puis là, Damien, t'as sûrement quelque chose pour nous, là.
J'ai la bande-annonce, terrible jungle.
Je devais rencontrer le chef des Autopies.
C'est moi.
Alors, je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer.
Ces premiers moments sont précieux pour le chercheur. Sans le savoir,
Ils sont mignonnes les deux.
Il noue des liens avec ceux qu'il pourra un jour peut-être appeler ses amis.
Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les...
Autopies.
Les Autopies. Donc vous savez où il est?
Non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines.
Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes. Mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu. Vous comprenez le...
Non, n'en dites pas plus, que je m'en fous. Nous allons monter une petite expédition dans la jungle.
Chef, dites quelque chose.
Ah, ça me fait pas plus plaisir qu'à vous, les gars.
Non.
Je vous rappelle qu'on est sur une scène de crime, donc s'il vous plaît, vous ne touchez à rien. Bon, voilà, touchez.
C'est du mercure. Ces Autopies sont des chercheurs d'or.
Ou des fabricants de thermomètres.
L'anthropologue n'est pas un homme comme les autres. Voilà pourquoi la folie le guette.
Et voilà comment ça se passe, papa.
Nous sommes à la recherche de ce jeune homme.
C'est pas du tout Elliot, ça.
C'est qui, ça, alors?
Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ressemblait pas à ça?
Vous êtes un vrai fardeau, Aspayet.
Je veux dire que vous êtes un poids pour l'équipe. Comme une sorte de boulet.
Ah! Ah, merde!
Ôtez vos sales pattes de mon chemisier, enfin! C'est du lin irlandais!
Écoutez-moi bien, si je veux me torcher avec ça, je me torche! Je fais des petites boules avec, je prends un petit bâton et je me le fous dans l'oreille et je me la récure. Est-ce que vous m'avez compris?
Je comprends surtout que vous êtes obsédé par vos orifices. Ah!
Terrible jungle, donc ça vient de sortir.
Oui, on reconnaît la voix de Jonathan Cohen d'ailleurs. C'est lui, et puis Catherine Deneuve et Vincent Dodienne au début. Voilà, allez vous détendre, ça peut vous amuser quand même. Bon, si vous aimez Catherine Deneuve, Vincent Dodienne, enfin les acteurs, rien que pour le plaisir de les voir. Ils ont dû s'amuser pendant le tournage, à mon avis. Ça a dû être assez plaisant, je pense. Et puis tant pis, on va changer un petit peu. On passe à un drame. Un drame sud-coréen. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc, c'est un drame, ça s'appelle Hotel by the River. Hotel près de la rivière. C'est de Sang Soo-hong, qui est un réalisateur, scénariste, producteur coréen. Il a déjà son actif 3 prix, 89 nominations. Il s'en sort bien, je pense qu'il connaît bien son travail, il a 59 ans, espérons qu'il en fera d'autres encore après. Ce film est très beau. C'est l'histoire d'un vieux poète qui loge dans un hôtel au bord d'une rivière et qui fait venir ses deux fils pensant que sa fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales, l'hôtel est aussi celui d'un désespoir amoureux. Une jeune femme trahie par l'homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une amie de la rejoindre. Donc on a au moins déjà au minimum deux histoires entre ce vieux poète et cette jeune femme trahie. C'est vraiment, c'est beau quoi, mais Sang Soo-hong, c'est pareil, il est très connu et très apprécié. Alors, on a Kim Min-hee dans les rôles principaux, Ki Joo-bong, Song Seon-mi et Kwon Hae-hyo. Bon, c'est pas si mal la prononciation. C'est pas si difficile, en fait, le coréen, finalement, à prononcer. On y arrive, quand même. Il y a beaucoup de tirés, c'est des prénoms à tirer beaucoup. C'est des noms aussi, avec un petit tiré. Ouais. Mais ça dure 1h36. Alors, normalement... Ah oui, ils avaient parlé de le sortir en 2021, mais non, finalement, ils le sortent là. Mais c'est un beau film. Ouais. Un beau film. Et puis, j'avais un drame français également. C'est un petit coup de cœur aussi. Le petit coup de cœur, c'est Hotel by the River aussi. Et puis Tijuana Bible, ça s'appelle, c'est un joli drame français. C'est de Jean-Charles Huy, qui est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Il a 2 prix, 10 nominations Il a 52 ans, cet homme-là, donc, et j'espère qu'il va continuer à nous faire réaliser de beaux films. C'est l'histoire de Nick. Nick est un vétéran américain blessé en Irak qui vit dans la zone norte, le quartier chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance d'Anna, une jeune Mexicaine à la recherche de son frère disparu depuis quelques semaines. Ensemble, ils vont plonger dans les bas-fonds de cette ville aux mains des narcos. Trafiquant. Alors, on a dans les rôles principaux, on a Paul Anderson qui joue Nick, le rôle de Nick. C'est un acteur britannique, on le connaît lui, Paul Anderson. On a une actrice mexicaine qui joue le rôle d'Anna, Adriana Paz. On a Noé Hernandez, qui est aussi un acteur mexicain d'ailleurs. Et Giancarlo Ruiz dans les rôles principaux. Je le dis tout de suite, ça dure 1h32, voilà, pour ne pas oublier. Alors, en fait, Jean-Charles Hu, je ne sais pas si on dit Hué ou Hu, je pense que c'est Hu parce qu'il n'y a pas d'accent sur le E, H-U-E, Jean-Charles Hu, voulait tourner un long métrage à Tijuana. Voilà, il avait ça dans la tête. Il a découvert cette ville en 2008. Alors, il y a d'abord filmé des portraits. Il y a ensuite tourné Carne Viva en 2009, son premier long métrage. Pour le cinéma et qui n'est jamais sorti pour des raisons de droit. Carne Viva. Ah oui. Et il se souvient d'ailleurs, je n'ai pas cessé d'y retourner depuis. Il parle de Tijuana. J'y ai fait 5 films, des courts-métrages documentaires comme Tijuana Tales ou Topo y Vera. Tijuana Bible, donc, je le préparais depuis 2016 environ. En écrivant, en faisant des repérages à chaque voyage. Mais malgré sa situation géographique différente, cette Tijuana s'inscrit pour moi, nous dit-il, dans la même continuité que mes 2 films précédents tournés dans le monde voyageur. Ils sont tous les témoignages d'une expérience humaine et cinématographique, ainsi que quelques pages arrachées au journal intime de ma propre vie. Alors, en fait, en dehors des rôles principaux, Paul Anderson, Adriana Paz et Noé Hernandez, les acteurs de Tijuana Bible sont des proches et des amis de Jean-Charles Hu qui jouent leur propre rôle. Leur vie est pleine de dangers à la vie comme à l'écran. C'est ce qu'il nous dit. Alors, par exemple, il y a Pinut qui fait roulette et sa compagne, Marie ainsi que son ami Jordo. Ils sont tous présents dans le film, dans leur propre rôle. Ils ont été assassinés. Depuis, par le narcotrafic. Voilà. Ces personnes qui jouent dans le film ont été froidement assassinées. Tijuana Bible leur rend hommage à eux, qui n'ont même pas leur nom inscrit au-dessus de leur tombe à la fosse commune de Tijuana. C'est terrible. Dès qu'on parle de narcotrafic, on sait ce qu'il y a derrière, les dangers qui sont derrière. Et alors, il nous explique que c'est aussi l'histoire du film avec l'éternel penchant d'un côté, le personnage de Nick qui vient s'oublier dans la cam, et le bon pasteur de l'autre, Ricardo, inspiré de l'authentique récit d'un ancien marine déporté des États-Unis tombé dans la drogue à Tijuana, qui après la rencontre d'évangélistes est devenu ce pasteur un peu étrange en uniforme de cérémonie qui a fondé sa propre église. Je pensais le faire intervenir en personne, mais la mort de sa fille dans un accident de voiture l'a totalement isolé. L'homme que j'ai filmé et qu'on voit sur le téléphone portable est un de ses amis, un vétéran lui aussi. Alors comme il fait d'habitude, Jean-Charles Hu, il a raconté une histoire nourrie de faits et de témoignages réels. J'ai essayé de rester au plus près dans ce scénario. Tout est vrai, nous dit-il. Les histoires sont soit des histoires qu'on m'a racontées, soit des choses que j'ai pu voir. Eh oui. Alors, ils ont, avant d'arriver, de poser leur caméra, en fait, ils ont déclaré à la ville de Tijuana qu'il y avait un tournage en masquant tout ce qui avait trait au narcotrafic. Évidemment, en le masquant dans le scénario. Hein. Parce que l'interdit est global sur ce point, même pour de la fiction. Il nous dit c'est en effet très dangereux, car si jamais tu commences à filmer un camp plus que l'autre, l'adversaire peut venir te flinguer rien que pour ça. C'est ce qui est arrivé au réalisateur de La Vida Loca, Christian Poveda. On a fait nos repérages et trouvé nos lieux, mais jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si ça allait être possible. Quant aux prostituées, elles refusaient les photos et les caméras, tout simplement parce qu'elles ne voulaient pas que leurs parents découvrent leur activité. Il y a plein de choses derrière ce film, c'est incroyable hein, quand même. Hein. Et la zona Norte, qui est un quartier de Tijuana, le réalisateur est quand même fier d'avoir réussi avec une équipe de 50 personnes à tourner dans cette zone qui est très importante à Tijuana hein, puisque c'est la zone du narcotrafic, donc c'est un endroit extrêmement dangereux. Donc c'est quand même voilà. Sur un autre film, il avait été obligé d'arrêter le tournage, pourtant qui était très discret. C'était sur Topo Iverán. Alors là, on s'est retrouvé avec une caméra imposante et 10 à 15 personnes derrière à filmer Paul Anderson comme si de rien n'était. C'était un grand moment, nous dit-il. C'était une période de grande violence à Tijuana. Hélas, comme toujours, j'ai envie de dire. Paul est arrivé un jour sur le plateau en disant qu'on venait de tuer quelqu'un à 30 mètres de lui. Heureusement qu'il n'avait pas froid aux yeux. Avec un autre acteur, le tournage n'aurait simplement pas été possible. Alors, dans le rôle principal du vétéran américain blessé en Irak, qui vit dans la zona Norte, on retrouve Paul Anderson, donc, effectivement, dont on vient de parler, qui est connu pour sa prestation de violent Arthur Shelby, le frère aîné de Thomas Shelby. Et oui, dans la série à succès, elle est connue, cette série, Peaky Blinders, la série... Il avait ce côté un peu maladif, ce Paul, nous dit le réalisateur. Juste ce qu'il fallait pour être crédible avec une présence incroyable. Il est très photogénique. Son corps est même parfois un peu drôle, comme à la plage où il forme un couple improbable avec Adriana Paz. Et quand tu as le corps qu'il faut, tu envoies la bonne énergie. Elle est captée, ça fonctionne, c'est magique. Paul possède non seulement le corps, mais la démarche, un peu comme John Wayne, à la sienne. Je ne connaissais pas la série Peaky Blinders, mais c'est en le découvrant sur des photos qu'il m'a renvoyé physiquement à l'image première que j'avais de mon GI américain perdu à Tijuana. Ah oui, Paul Anderson, c'est déjà un acteur formidable, mais là, franchement, dans son rôle de vétéran blessé en Irak et qui vit dans cette zone extrêmement dangereuse, c'est quand même extraordinaire. Mais il a vu quelqu'un dont se faire tuer, je disais, hein, à 30 mètres de lui. Il est courageux quand même, cet acteur. Je crois que beaucoup d'autres acteurs auraient arrêté, quoi. Auraient dit, bon, c'est fini, on arrête. Hein. J'arrête le tournage. C'est ce que dit le réalisateur, mais c'est sûrement vrai. Un tas d'acteurs qui se seraient dit, mais attends, moi, j'ai pas envie de mourir là, quoi. Et pour finir, c'est pour gâter. Mes petits amateurs d'épouvante et d'horreur, mais attention, dans des bons films. Hein, quand ici, à Radio Entre-Neuvres, on parle d'un film d'épouvante et d'horreur, c'est qu'il est bon. On prend les bons, parce qu'il y en a tellement qui sont très mauvais, il y en a énormément d'ailleurs, qui sortent et qui sont très mauvais. Mais là, on essaie justement de trouver les bons. Alors là, j'ai The Vigil. The Vigil, épouvante horreur, c'est américain. C'est de Kate Thomas, qui est un réalisateur de Thomas II. Après papa. Qui est un réalisateur scénariste américain. Alors son film a 5 nominations, The Vigil, au Fantastic Arts Festival du film fantastique de Gérard Maire en 2020. Il a nominé quand même pour le Grand Prix, le prix du jury, le prix du jury jeune, le prix de la critique et le prix du public. Ouais, c'est des belles nominations ça quand même. Alors c'est quoi cette histoire de The Vigil ? Nous sommes à New York. Quartier Brooklyn. Après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yaakov, à court d'argent, comme de foi, accepte à contre-cœur d'assurer la veillée funèbre, oui quand même, la veillée funèbre, d'un membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt. Ah ben j'aime pas parler des morts, moi sans doute, là j'ai un petit blocage là. Donc avec la dépouille, pas du dauphin heureusement, mais du défunt pour seule compagnie, il se retrouve bientôt confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants. Et oui, voilà comment une comédie dramatique tourne en épouvante, évidemment. si on veille un mort et qu'il se passe un tas de choses. Alors, dans le rôle de Yakov, on a Dave Davis, qui est un habitué de ce genre de film et qui est très, très bon. On a Lynn Cohen, Menaché Lustig et Malky Goldman dans les rôles principaux. Alors, c'est vraiment un excellent film hein, d'épouvante pour les amateurs, là. C'est vraiment... Kay Thomas, de toute façon, c'est son genre de prédilection. Il a toujours voulu faire des films d'horreur, c'est comme ça. Mais il souhaitait trouver un angle inédit. Alors là, il s'est aperçu qu'il n'avait jamais vu de long métrage horrifique au concept basé sur la religion juive. Il y a quelques films, dit-il, avec des éléments bibliques ou un personnage de rabbin, mais rien qui ne soit dans ce monde-là ou qui ne vienne de ce monde-là. J'ai écrit le scénario et j'étais prêt à le tourner moi-même. Ah oui, mais bon, il a été mis en contact avec deux producteurs et il m'a dit, son manager quoi, lui a dit, tu vas voir, ça va aller avec eux, ils vont produire le film. Et il avait raison. Alors, il cherchait donc quel élément de la culture juive pourrait être adapté en film d'horreur. Il a réalisé que personne n'avait encore fait de film sur un chômeur, un schumer. Je pense qu'on prononce chou, le S-H-O-M-E-R, ça doit être schumer, je pense qu'on dit. Pas chômeur, parce que c'est, ça n'a pas du tout le même sens. Donc, voilà. Il s'agit d'une personne, enfin, on va dire ce que c'est qu'un schumer, justement. C'est une personne qui veille et qui surveille les morts la nuit d'avant les funérailles, permettant l'élévation et la protection de l'âme du défunt grâce à ses prières. Donc ça, c'est chez les Juifs, le schumer, là, justement. Alors il nous dit, ça m'apparaissait fou que personne n'ait fait un film avec un tel concept. Je savais donc que je devais avoir un chômeur seul avec un cadavre toute une nuit. Je savais que ça devait avoir une unité de lieu, que ça devait se dérouler en temps réel. Je savais que ça allait créer de la tension. Ah oui, oui, forcément là. Et oui, la tension, elle existe effectivement. Et il voulait aussi, lui, que le démon soit issu de la culture juive. Ben oui, lui aussi. Après moult recherches sur les textes rabbiniques et les études talmudiques, il a trouvé le mazik. Le mazik, c'est un démon censé habiter les endroits abandonnés. Alors, il est plutôt obscur. Ben oui, le mazik. En fait, dans la communauté hassidique, le terme mazik est utilisé pour définir les enfants turbulents. Genre, oh, c'est un mazik ce gamin. Je suis revenue à la définition d'origine, ce démon destructeur que l'on trouve dans certains textes. Ah oui, moi j'aurais pas l'idée de dire, ah, c'est un mazik ce gamin. Je dirais, oh, il y a un petit coquin ce gamin. Ah oui, un mazik, carrément, le démon. Ouf. Et oui, ça c'est vraiment pour un gamin très turbulent et très méchant, je suppose. Alors, comme il n'y a pas dans la religion juive cette écurie de créatures diaboliques que l'on trouve dans la religion chrétienne, le réalisateur a eu du mal à créer de la Judée horreur. Et oui, il a concentré ses recherches sur une période très lointaine, il y a des centaines d'années, quand la frontière entre religion et superstition était très, très ténue, très petite. J'ai parlé à un rabbin spécialiste de démonologie juive, ah oui, carrément, surtout dans la tradition d'Europe de l'Est, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait toute une liste de démons, mais ce n'étaient pas des démons bien dangereux. Des petits démons, si vous voulez, du genre à mettre la pagaille dans votre maison, à vous causer des petits tracas. Mais ils n'étaient pas vraiment maléfiques, ils étaient plus des nuisances qu'autre chose. C'était intéressant. Ben voilà, on apprend que dans la religion juive, il n'y a pas de méchants démons, finalement. Il n'y a que des petits, des malicieux. Voilà, des démons qui font des farces, en quelque sorte. Alors qu'effectivement, dans la religion chrétienne, il y a des démons sacrément mauvais, quoi. C'est clair. Voilà, donc il a... Ah oui, il a hésité aussi, quand même, à ajouter le thème de la Shoah dans le film. Une fois que j'ai compris que je pouvais garder les références à l'Holocauste en les inscrivant dans l'histoire du défunt, en restant sur une seule atrocité, ça me semblait une évidence. Ça devait faire partie de l'histoire. Mais je ne voulais pas installer la comparaison entre les tragédies de Yakov et de M. Litvak. M. Litvak, c'est le mort. Hein. C'est le défunt que Yakov est en train de veiller. Mais je veux montrer que n'importe quel traumatisme, quelle que soit son échelle, peut nous handicaper à vie. Il faut avant tout essayer de le surmonter pour avancer. Et oui. Alors, il a, comme, quand il était enfant, il avait vu le film L'Exorciste de William Friedkin. C'était sorti en 1973. Toutes les références religieuses lui échappaient, mais il comprenait tout. Et oui, il était enfant, donc le réalisateur, c'est exactement ce qu'il a voulu pour son film. Voilà. Il voulait que toutes les prières, tous les textes en hébreu, toutes les références religieuses soient justes. Et quand il a vu L'Exorciste gamin, bah, il n'avait pas besoin de savoir de quoi il s'agissait pour comprendre ce qui se passait. Et oui, pour suivre le film, on pouvait le suivre sans le comprendre, en fait, à la limite. Donc, L'Exorciste est une grosse influence pour lui. Mais il y a aussi l'échelle de Jacob. Qui est sorti d'Adrien Lienne, qui est sorti en 1990 avec Tim Robbins, époustouflant dans le rôle, l'échelle de Jacob. Et puis il y avait aussi Possession d'Andrei Zulowski. Et puis voilà, il a donc des références, tous ces films qui l'ont influencé. Ouais. Dans L'Exorciste, au fait, il y avait Linda Blair, Max von Sydow. 4 prix, 7 nominations quand même. Et dans Possession, c'était Isabelle Adjani et Sam Neill qui a eu 2 prix et 4 nominations. Donc, il s'est quand même inspiré de sacrés bons films pour le sien. Voilà. Eh bien, on termine là-dessus.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces sorties cinématographiques.
Oui. Eh bien, de toute façon, on va se retrouver. On se retrouve quand ? La semaine prochaine, tu veux bien ?
Ah oui, avec plaisir.
Bon, et puis mes chéris, bah, écoutez, profitez bien. Si vous êtes en vacances, bah, profitez-en. Ouais, vraiment là, hein. Allez-y, carrément profitez. Si vous êtes encore au travail, si vous prenez des vacances beaucoup plus tard, bah, ça ne fait rien. Le soir, quand à la fraîche un petit peu, là, quand l'atmosphère se rafraîchit, vous pouvez toujours prendre un petit verre dehors ou manger un petit peu dehors, quoi. Hein, ça fait du bien. Pour repartir le lendemain matin au boulot en pleine forme. En tout cas, je vous souhaite tout ce qui est bon. Faites aussi attention quand même, hein, là, vous savez, ce danger là qui rôde autour de nous. Ayez un masque avec vous surtout, hein, n'oubliez pas, hein, c'est très important. N'oubliez pas le mètre aussi, un mètre entre les gens et vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un magasin, essayez, hein, que ce soit toujours à un mètre avec votre masque. Et puis vous l'enlevez quand vous êtes dehors à l'air libre, hein, ou dans votre voiture tranquille. Parce qu'avec la chaleur, c'est vrai que le masque, c'est quand même beaucoup moins supportable. Mais on y arrive parce qu'il faut, il le faut. Hein, il le faut absolument. En tout cas, moi, je compte sur vous. Je suis sûre que vous faites tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai confiance en vous. Et puis surtout, je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.